Bonsoir, bienvenue sur Jean Rage. Ce soir, nous faisons notre sixième émission. Nous sommes le 29 avril 2013. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir Zeb.
Au programme de cette émission, nous discuterons du livre Testo Bianchi de Béatrice Preciado. Donc on fera une présentation de l'auteur et Suzanne et moi avons lu quelques chapitres du livre. On essaiera de vous faire une synthèse analytique, on va dire, de ces chapitres-là et de vous exposer un peu les concepts principaux qu'elle y développe. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons un entretien avec Yannick de l'association Faire Face. Yannick qui est formatrice d'autodéfense féministe. Alors sans transition, je vous laisse tout de suite la parole à Suzanne pour présenter Béatrice Preciado.
Ouais, merci. Alors, en fait, donc, j'ai Béatrice Preciado pour la présenter brièvement. Donc, elle est à la fois militante et chercheuse féministe queer, très liée au mouvement transgenre queer. Et elle est née dans l'Espagne franquiste. Elle a ensuite été été disciple de Jacques Derrida, avec qui elle a travaillé à Princeton. Elle a été chercheuse à Princeton. Elle a enseigné également à Paris 8. Et là, actuellement, elle est dans des instituts de recherche en Espagne autour de l'art contemporain. Et en fait, donc elle a le premier, donc les trois principaux essais critiques qu'elle a publiés et qui, après je reviendrai peut-être un petit peu sur ces appellations, mais qui en gros sont empreints des théories de la postmodernité et également autour de des notions de performativité. Voilà, pour résumer. Et donc, elle a publié en 2000 le Manifeste contrasexuel. Ensuite, en 2008, elle a publié Testo Bianchi, dont on va parler. Et enfin, en 2012, Pornotopie, qui porte sur la pornographie, mais dans le milieu hétérosexuel. Et donc, du coup, sur la production de la pornographie dans un cadre non pas queer, mais dans un cadre vraiment mainstream, on va dire. Et Testo Bianchi, c'est un petit peu devenu la bible du milieu queer, on peut dire, en France. Donc, quel est son propos à Béatrice Preciado? Son essai se situe un petit peu entre c'est entre théorie et expérimentation. C'est à la fois un essai où elle fait une espèce de grosse synthèse de plusieurs figures féministes ou qui ont compté beaucoup pour l'épistémologie féministe, pour la méthode féministe en fait, notamment Michel Foucault, dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure. Et ensuite, elle expérimente, c'est-à-dire qu'elle-même, son livre est un terrain d'expérimentation de ce qu'elle appelle une micropolitique, du micropolitique, puisqu'elle va s'injecter, enfin elle va plutôt s'appliquer du testogel, c'est-à-dire en fait la testostérone synthétique qu'elle prend en trafic, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas le protocole officiel de prise de testostérone, puisqu'en fait ça n'est applicable qu'aux personnes, qu'aux hommes en fait, qu'aux hommes hétérosexuels ou alors aux personnes qui décident de se soumettre au protocole de réassignation sexuelle par l'État. Et donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que donc c'est là-dessus que je vais par là que je vais commencer à introduire un peu dans le texte, c'est qu'en gros elle se définit comme transgwin en fait. Et cette appellation est assez intéressante parce que elle rappelle qu'elle est évidemment, enfin son travail est en complète solidarité avec les transsexuels et les transgenres et leur vécu etc, mais que elle a décidé de ne pas se soumettre au protocole d'État étatique en fait qui produit des genres complètement dichotomiques et qui est extrêmement aliénant. Et du coup en fait elle ne veut pas jouer ce jeu-là parce que elle considère que les corps sont précisément la propriété de l'État dans un contexte où le sexe et la sexualité sont régulés par les institutions et par l'État et par la famille, etc. Donc Transgwyn, c'est une sorte de, je dirais pas forcément une provocation, parce que c'est, mais c'est voilà, c'est une façon de dire que voilà, trans, l'État réclame que les transsexuels soient hétérosexuels. Or, Transgwyn, il y a une forme de, entre guillemets, de d'oxymore là-dedans. Enfin, même si c'est pas vraiment le, enfin, je pense pas que ce soit vraiment le, les faire chercher. Mm-hmm. Ou je traduis un peu mal, mais l'idée, c'est que elle est transsexuelle, mais elle est gwyn en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, elle serait, mais c'est-à-dire que elle est dans un processus de, en fait, trans voudrait dire qu'elle devient ou qu'elle s'affirme comme homme, alors que gwyn présupposerait qu'elle
s'identifie une femme,
s'identifierait comme femme. Donc il y a une forme de contradiction dans les termes qui est recherchée, parce que précisément elle ne veut pas se soumettre à ces catégories exclusives les unes des autres. Et donc en fait l'idée de s'appliquer du testogel, c'est selon elle en fait politique, parce que elle ne cautionne plus, et ça je cautionne pas, et je viendrai juste après en expliquant un petit peu Foucault et Butler. Elle n'adhère pas à l'idée de politique comme révolution au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire révolution radicale avec une sorte de collectivisation des luttes qui soient dans des grands projets de transformation de la société, mm-hmm. mais que finalement le politique peut s'appliquer à un niveau micro
individuel.
Voilà. Ensuite, je sais pas si Zab, enfin, tu veux rebondir sur un truc.
Moi, sur ça en particulier, le chapitre que j'ai lu ne l'abordait pas du tout. Donc, enfin, après, d'accord. Si c'est un chapitre qui aborde le fait qu'il y a un contrôle de l'État, mais plutôt c'est un chapitre. Donc, le chapitre que j'ai lu s'appelle Pornopoder. Hein. C'est un chapitre qui aborde plutôt justement le contrôle sur les corps, mais pas en, comment dire, le contrôle plutôt le fait que en gros il y a une certaine, enfin déjà c'est un chapitre qui met en relation capitalisme et donc société capitaliste et de consommation avec l'industrie pharmaco-pornographique que tu vas expliquer je pense dans quelques instants. Mais surtout, c'est plutôt, elle met plutôt en relation dans ce chapitre-là la création finalement d'une dépendance à des drogues, quelque chose qui est extérieur. Donc c'est pas en fait, c'est pas la marchandisation des corps, c'est plutôt la création d'une relation marchande entre corps et une espèce de dépendance qui a été créée aussi par des firmes multinationales qui vendent notamment ce qu'on peut appeler des drogues, qui seraient par exemple la pilule ou encore tout ce qui est testostérone, etc. Donc par exemple, donc en gros, comment finalement c'est une société dans laquelle il y a eu création d'un besoin de changement du corps ou d'un besoin de contrôle sur le corps, a été créée cette dépendance à l'industrie pharmaceutique en gros. Par rapport à... Donc en fait c'est une manière de contrôler les corps, mais pas via un contrôle direct sur les corps, sinon en créant une dépendance des corps via un traitement, quoi. Je sais pas si je me suis expliqué
si,
très bien.
Complètement, ouais. Et d'ailleurs je pense qu'en fait on pourra même y revenir à la fin, parce que je pense qu'en plus on comprend davantage si à partir des concepts de Foucault et Butler qui sont hyper importants pour comprendre sa démarche, parce que Preciado, elle a une façon d'écrire où elle invente plein de concepts, plein de mots hyper techniques, elle joue beaucoup avec la langue, quoi, vraiment. Enfin, c'est pas seulement un jeu, hein, c'est vraiment très performatif pour le coup, c'est-à-dire que ça produit un savoir. Et je pense que c'est peut-être important de
revenir sur les mots avant. Oui.
Ouais, parce que pour le coup, ce que tu disais, c'est super important. Enfin, c'est super intéressant, et on comprend d'autant plus, je trouve, après avoir vu que sa démarche découle aussi de ses lectures de Foucault et Butler. Mm-hmm. Et donc, brièvement, en fait, elle, son projet, très brièvement, c'est d'appliquer les théories de Foucault et Butler à la corporéité et d'appliquer la méthode de Foucault et son histoire de la sexualité, enfin pas l'appliquer mais continuer en fait le projet foucaldien mais appliquer au XXe siècle. Parce que, qu'est-ce qu'a fait Foucault dans l'histoire de la sexualité? Bon, je prétends pas vraiment ça. C'est un monument qui était extrêmement commenté, donc vous excuserez les abréviations, enfin les abréviations, les approximations, parce que c'est certainement pas très rigoureux, mais en gros l'idée, c'est que donc Foucault a introduit le concept de biopouvoir, qui est donc, comme il l'a expliqué, une nouvelle forme de pouvoir qui apparaît, dont il a identifié l'émergence en tout cas à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, il y a eu au XVIIIe siècle, selon Foucault, le passage d'un pouvoir souverain à un pouvoir disciplinaire. Le pouvoir souverain, très brièvement, c'est l'idée de pouvoir de mort, c'est-à-dire que le souverain avait pouvoir de mort sur ses citoyens, enfin sur ses sujets plutôt. Et ensuite, on est passé à un pouvoir sur la vie, c'est-à-dire que comme il n'y avait plus toutes les grandes épidémies, la peste, etc., ont disparu pour finalement arriver à une période où c'était la longévité de la vie qui était recherchée, et du coup l'optimisation de ces corps, comment les optimiser au maximum. Et du coup, le pouvoir n'est pas, selon Foucault, enfin le pouvoir moderne en fait de la modernité n'est pas un pouvoir coercitif ou répressif, mais un pouvoir très productif parce que il produit des corps. En fait, c'est un pouvoir qui redresse les corps, qui les normalise en fait, qui va être toujours en train de corriger l'individu pour produire en fait des corps. C'est un pouvoir régulateur d'une certaine manière. Pour donner quelques exemples très brefs, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais tous les savoirs qui se sont développés autour de la pédagogie, les savoirs qui sont développés autour de la psychiatrie et dans leur application clinique, ont montré que il y avait ce que Foucault par exemple explique. Il y a par exemple une stigmatisation, enfin c'est peut-être pas le bon terme, de l'enfant masturbateur. Donc la masturbation était interdite et c'était considéré comme une névrose. Donc il y a le développement de toutes les théories autour de la pathologie. Et tout simplement en développant, en produisant des pathologies, on produit aussi une norme qui est de dire qu'est-ce qu'un corps normal et qu'est-ce qu'un corps pathologique. Et du coup, c'est cette idée que du coup, on va soigner les corps pathologiques, etc. Donc voilà, en gros, on produit un savoir sur le corps et des catégories. On produit les catégories d'hétérosexuels et d'homosexuels qui n'existaient pas en tant que catégorie exclusive auparavant, comme catégorie de savoir en fait sur une subjectivité. Donc on se pense en tant que subjectivité à partir de ces catégories. Nous-mêmes, on se pense avec ces catégories et on les naturalise, c'est-à-dire qu'on les pense comme naturelles. Elles nous paraissent pas du tout construites. Donc elle est partie de cette analyse de Foucault et elle, ce qu'elle te dit, elle dit voilà, Foucault, lui, il est pas allé s'intéresser aux transformations des technologies modernes, enfin des technologies contemporaines, quoi, en gros de la deuxième moitié du 20e et puis même du 20e siècle. Il s'est pas trop intéressé à ça et elle observe vraiment une transformation assez notoire, qui est en fait l'idée que le pouvoir s'applique. Ce n'est plus un pouvoir, ce qu'on pourrait appeler disciplinaire, mais un pouvoir qu'elle appelle pharmaco-pornographique et qui en fait se matérialise sous la forme, enfin se produit en fait sous des formes microscopiques en fait, même si elle n'emploie pas ce terme-là, mais elle emploie des néologismes comme sous la forme de numérisable, biocosmétique. Je vais essayer de retrouver les termes exacts parce qu'elle les utilise très souvent dans mes notes. Microprosthétique. Enfin, en fait, l'idée, brièvement, ouais, excuse-moi, Zab.
Oui, non, c'est, si tu arrives pas à retrouver, c'est pas très, très grave non plus.
Non, là, peut-être immédiatement. Rien. Oui, non, c'est clair. Non, en fait, en gros, l'idée, c'est que le pouvoir se développe sous la forme, enfin, le contrôle des corps ne s'opère plus uniquement de l'extérieur par intervention sur les corps, mais qu'il investit directement les corps, qu'il infiltre les corps et qu'il se matérialise dans les corps, si bien qu'il est même plus concevable. On ne conçoit plus le corps en dehors même de ces technologies, mm-hmm. si bien que le corps est investi par les technologies toujours déjà. Et le corps n'est jamais complètement indépendant de ces technologies. Donc elle donne beaucoup d'exemples. Elle donne des exemples très précis. Si je résume, elle parle de toutes les hormones qui agissent sur la satiété. Elle parle de toutes les hormones qu'on prend, de tous les médicaments qui régulent notre excitation sexuelle. Par exemple, Viagra, le développement du Viagra, qui est censé qui s'applique à des défaillances d'érection et qui, d'une certaine manière, produisent des corps et produisent des corps normalisés. Elle donne un exemple pour essayer de rendre un peu intelligible ce truc-là. Je vais donner deux exemples. Un premier qui n'est pas directement lié à cette technologie microbiologique, en gros, mais qui est tiré de l'idée qu'il y a un lien entre la production d'identité de genre et la production des organes, la production de comment est-ce qu'on va penser le corps et la sexualité. Elle donne l'exemple de... elle dit « être homme, finalement, qu'est-ce que c'est au XXe siècle ?» C'est avoir un pénis de plus de 1,5 cm à la naissance. Avoir une bite de plus d'un centimètre et demi à la naissance. Elle dit, pour elle prend l'exemple de l'anus, qui pour elle est vraiment le lieu de l'abjection et le lieu même qu'il faudrait réinvestir par excellence, parce que c'est vraiment le lieu de la passivité primordiale et qui est complètement exclu de ce système génital et qui est reproductif, parce que le pouvoir produit un savoir sur ces deux génitalités, le vagin et le pénis, qui produit un hétérosexuel masculin qui, évidemment, est complètement tétanisé par l'idée de se faire prendre, quoi. Voilà. Et donc, sinon, pour donner des exemples de toutes les sortes de techno-sexualité, en fait, comme elle appelle...
Donc technosexualité, tu peux peut-être préciser, ça a à voir avec justement le fait que la sexualité soit alliée à une forme de technologisation ou de technicité des corps, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le fait, exactement, c'est ça. C'est l'idée que tous nos corps sont complètement matérialisés et qu'ils se construisent, c'est même pas qu'ils se construisent, c'est que ces substances biomoléculaires et numériques infiltrent nos corps, se dissolvent dans nos corps, et si bien qu'il n'est plus possible de les distinguer. Elle parle des exemples de silicone, d'hormones agissant sur la faim, moi je me répète un petit peu, sur le sommeil, etc. Et donc à partir de là, du coup, quelle est son expérimentation à elle ? Elle se dit, bon, je vais m'appliquer du technogel, qui est l'hormone en fait prescrite principalement pour les hommes pour les hommes en fait, parce que sur la notice elle appelle ça un manuel de microfascisme, parce que en fait la notice présuppose qu'elle s'adresse à un homme hétérosexuel, puisque il est question d'une partenaire féminine et non pas de X partenaire Et donc, du coup, elle se dit, en fait, la précondition pour que je prenne cette testostérone, ce testogel, c'est que je cesse d'être femme, en fait. Je cesse de me définir comme femme. Mm-hmm. Donc, elle se conçoit un peu de cette façon-là, enfin, dans cette logique-là, comme un gender hacker, quoi, un hors-la-loi du...
Oui, c'est difficile de traduire.
Du genre...
Un pirate.
Un pirate, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais, c'est exactement ça, un pirate. c'est exactement ça. Donc voilà, après, je pense que je pourrais donner encore quelques hommes. Je vais peut-être te donner la parole, Zab, si tu veux rebondir sur des trucs...
Oui. Par exemple, tu as parlé d'orifice. Il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'elle développe dans la partie que moi j'ai lue. C'est justement le fait que... du fait de la division sexuelle, Donc ce qu'elle appelle division sexuelle, c'est un concept qui a été, je sais pas exactement quand est-ce qu'il a été développé, c'est un concept sociologique, selon lequel, en gros, enfin c'est un concept d'organisation de la société dans la famille, qui en gros assigne à l'homme prioritairement le travail, tout ce qui est travail qui a trait à la production, et à la femme tout le travail qui a trait à la reproduction. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, en repartant juste deux petites minutes sur ce que tu disais au niveau des drogues, quoi, de cette industrie pharmaco-pornographique. Elle parlait à ce sujet de la pilule. Elle disait que c'était une invention qui est considérée comme l'invention libératrice de la femme, etc., parce qu'elle permet de justement donc de faire une différence entre tout ce qui a trait au sexuel et tout ce qui a trait à la reproduction. Donc ça libère entre guillemets, ça libère la femme de la du risque d'avoir un enfant, mais en gros elle justement elle reprend en reprenant donc cette notion de libéralisation de la femme, elle la conteste en gros, j'essaie de retrouver mes notes en même temps, elle la conteste en disant que en gros par cette différenciation du travail de reproduction et du travail de sexualisation, finalement, ça, bon, je retrouve pas mes notes, c'est pas grave. Finalement, ça a institutionnalisé le travail de reproduction, d'autant plus dans des normes hétérosexuelles, parce que justement, il y a une différence entre ce qui a trait au sexuel, à la sexualisation, donc notamment à l'orientation sexuelle, mais tout ce qui est travail de reproduction, ça reste dans le cadre donc d'une relation homme-femme. Je suis très très claire en fait. J'arrive pas exactement à retrouver mes notes, c'est pas grave. Je repars sur ce que j'avais dit au départ, donc de la division sexuelle du travail. Je sais plus ce que je voulais dire.
Par rapport à la reproduction.
Ah,
à
des
la
orifices.
Ouais.
Voilà, donc quelque chose qui est le fruit de cette division du travail finalement dans l'industrie pornographique.
Ouais.
C'est le fait qu'il y a deux pôles, donc un pôle qui est qui est généralement désigné comme passif et un autre pôle qui est désigné comme actif. Le pôle passif est en réalité étant représenté par ce qui est attrait au corps pénétrable, potentiellement pénétrable et pénétré, qui sont symbolisés et incarnés par la femme, les transsexuels femmes et les gays en gros. Et d'un autre côté, les corps qui sont pénétrants, donc qui sont associés avec ce qu'on appelle le pôle actif, qui sont des catégorisations totalement arbitraires bien sûr, et qui sont incarnés par l'homme finalement. Et en gros, ce qu'elle montrait, c'est la corrélation qu'il y a entre division sexuelle du travail et justement pratique sexuelle et représentation de la sexualité. Et en gros, elle essayait de démontrer comment finalement c'est d'une part c'est quelque chose qui est tout à fait construit, mais d'autre part finalement comment la technologisation. Bon, dès le départ, elle souligne quelque chose qu'elle considère comme fondamental, c'est le fait que finalement un homme et une femme, ça a quasiment autant d'orifices. Donc il n'y a pas un corps plus pénétrable qu'un autre en théorie. Et deuxièmement, en termes de potentialité de pénétration, c'est pareil, on a tous le même nombre de doigts, le même nombre de mains, de langues, de tout ce qu'on veut, quasiment. Que c'est vraiment des notions qui ont été construites à partir de quelque chose qui a rien à voir avec le biologique, mais qu'en plus avec cette technologisation dont tu parlais, ou technicisation, je sais pas trop comment l'appeler, des corps, que ce soit à partir de substances comme le Viagra, etc., ou d'hormones, mais aussi technologisation plutôt avec tout ce qui est objet ou reconstruction du phallus ou ce genre de choses, finalement il y avait une espèce de dilution, ou elle a pas parlé d'explosion mais vraiment de dilution de cette division du travail sexuel qui finissait par se perdre. Et entre finalement les fantasmes, donc elle explique notamment dans ce chapitre le double processus d'identification qui a cours lors du visionnage d'un film pornographique, etc., que je vous invite à lire si on n'a pas le temps de l'expliquer ce soir. Mais donc, en gros, cette technologisation explose les constructions et fait des corps, finalement, des corps qui sont plus... tous les corps, finalement, deviennent pénétrables, pénétrés et pénétrants. Et donc, ça explose, finalement, donc, cette division sexuelle du travail.
D'accord.
Je ne sais pas si je me suis fait très bien comprendre.
Non, si, je vois ce que tu as expliqué, en tout cas. Et d'ailleurs, ça permet de... Je vais justement créer un lien avec ce que tu viens de dire, très rapidement, pour donner un exemple de substance... micro cosmétique ou micro pornographique, mais micro prosthétique biomoléculaire plutôt, comme elle l'appelle, en fait, de ces technologies de genre dont elle parle, et qui est par exemple le Viagra. Et tu disais que il y avait en fait une force productive de division sexuelle du travail, mais qui se délitait, en fait, se dissolvait avec la pornographie. Et ce qu'elle donne comme exemple, le Viagra, c'est un exemple de substance produite finalement pour produire des organes sexuels optimales et dans une certaine, mais qui du coup produit une certaine norme, une certaine idée de ce que c'est que la performance, de ce que c'est que la norme et l'idéal masculin, de ce que c'est que, etc. Et donc va produire l'idée d'une dysfonction érectile du pénis, c'est-à-dire qu'il y aurait donc un bon fonctionnement et un dysfonctionnement, et qui exclut bien évidemment ceux qui n'ont qui sont en fait officiellement sans pénis, en fait. Je sais pas si je suis très claire non plus. En fait, c'est pas évident non plus très bien expliquer parce qu'elle a un vocabulaire très technique. Mais je pense que là, on a essayé en tout cas d'aborder à peu près les concepts peut-être les plus abstraits, mais les plus techniques, et essayer de donner un petit contexte théorique à ce qu'elle présentait. Et franchement, on vous invite vraiment à lire.
C'est un livre qui vaut vraiment la peine.
Ouais. Ouais,
il fait 400 pages et quelques, donc ouais. C'est vrai que c'est des chapitres qui sont quand même assez
dense,
ouais.
Ouais.
Après, elle a une manière d'écrire qui est très agréable à lire.
Ouais.
Certains chapitres sont un peu plus difficiles que d'autres. Le tien, par exemple, tu disais qu'elle liait quand même pas mal tout ce qui est fictionnel et réel, qu'il n'y avait pas trop de frontières entre...
Entre les deux, en fait, il y a un chapitre où elle parle de son expérience avec VD. Enfin, elle s'appelle VD, c'est Virginie Despentes, parce que donc elles sont ensemble. Et puis, donc, elle parle de sa rencontre avec Virginie Despentes, qui est à peu près concordée avec sa première prise de testogel. Donc, des chapitres qui suivent entre sa prise de testogel, de testostérone synthétique, sa rencontre avec VD, Virginie Despentes, et... ensuite ses allers-retours entre Foucault, Butler, ses théories sur l'air par pharmacopornographique. Enfin, c'est très ludique et en même temps assez solide. Enfin,
et pour un ouvrage académique, elle utilise aussi un langage qui n'a rien d'académique, et c'est vrai que c'est intéressant de lire des livres qui sont pas écrits de la même manière que par exemple Foucault ou même Judith Butler, qui ont une écriture beaucoup plus neutre, ou ouais, neutralisée en tout cas.
Mais je pense que d'ailleurs, elle doit être peu abordée dans les universités, moins que... C'est même quasiment sûr. Moins. Testo Junkie, du fait de cette...
Elle échappe au canon d'écriture, en tout cas d'un point de vue stylistique.
Ouais.
Donc voilà, on a essayé de vous donner un petit aperçu du livre. C'est vrai que c'est assez difficile à expliquer en une demi-heure. On pourrait en faire... On pourrait en faire un séminaire complet, donc voilà. On vous invite à le lire, en tout cas. C'est un livre très intéressant. Si vous voulez vous le procurer, on l'a en PDF en espagnol. On peut vous le transmettre gratuitement, de manière libre, si ça vous intéresse et si vous savez parler espagnol. En français, on l'a pas mal, heureusement. Ça peut peut-être être trouvé sur Internet. Tout de suite, on va passer à une petite chanson. Suzanne, je vais te laisser la présenter. Et on passera ensuite à l'entretien avec Yannick, donc, qui est formatrice d'autodéfense féministe pour l'assaut Faire Face, qui se trouve à Toulouse.
Oui, donc tout de suite, John Dead pour Bad Reputation. Alors, petit problème technique, on passe tout de suite à l'entretien avec Yannick de l'association Faire Face.
On est de retour avec Yannick. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Donc Yannick est formatrice d'autodéfense féministe de l'association Faire Face, qui est donc à Toulouse, et elle a été invitée par les rencontres féministes qui organisent, comme on a déjà un peu parlé, Festival des Ordres, courant mars, et pour donner deux cours d'autodéfense féministe, c'était le samedi 16 mars. Donc, on est avec toi pour présenter un peu l'autodéfense féministe, davantage que l'association, peut-être pour expliquer un peu, découvrir en fait ce que c'est que l'autodéfense féministe, qui la différencie de l'autodéfense traditionnelle, si tant est qu'il y en a une, et quel est son mode de fonctionnement, quel est son but, quel est... à quel public s'adresse et selon quelle est la est-ce qu'il y a une réflexion en amont aussi qui oriente la pratique et voilà en gros c'est le plus ou moins la thématique générale de pourquoi on est là
J'ai oublié de dire que... Ah oui, non. Et voilà, donc si tu veux présenter peut-être de manière générale l'autodéfense féministe.
Alors, l'autodéfense féministe, en tant que telle, et assumée en tant que telle, ça existe depuis, disons, les années 70, mais bien sûr qu'il y a eu des formes d'autodéfense et d'organisation des femmes pour résister face aux violences bien avant ça. Donc, l'autodéfense féministe, a priori, puisqu'il y a peu d'écrits sur la question qui existe, c'est donc été créé dans les années 70. La méthode que nous on enseigne s'appelle le Femdoshi, qui signifie la voie de l'énergie des femmes. Ça a été créé au Québec par des féministes, justement, pour certaines qui étaient pratiquantes d'arts martiaux, mais qui ont décidé de développer une méthode plus large, c'est-à-dire pas seulement physique, qui du coup se base sur des techniques d'assertivité, d'affirmation de soi, de prise de confiance, et donc du coup des techniques verbales, psychologiques, mentales. Voilà. Souvent quand on parle d'autodéfense, les gens pensent à l'aspect physique en premier lieu. Ça en fait partie bien sûr, mais c'est pas du tout que ça. Ça se base justement sur l'autodéfense féministe, sur une analyse des rapports sociaux de sexe et de la société patriarcale, avec la question de domination, dominant-dominé. Et donc voilà, donc ce sont des méthodes qui sont enseignées par des femmes, pour les femmes. Et les objectifs, disons généraux, c'est faire en sorte que les femmes soient plus autonomes, pas tributaires d'un homme protecteur pour se défendre, et qu'aussi elles développent donc la confiance en soi et qu'elles aient une liberté de circuler et voilà, de se mouvoir, disons, dans l'espace public. Ce sont des techniques qui peuvent vraiment être utiles autant pour les violences qu'on peut vivre dans l'espace public, dans l'espace privé, l'espace intime, dans la relation intime, ou familiale, voisinage, amical, tout ça, et l'espace professionnel également. Voilà, comment dire, après il y a plusieurs techniques d'autodéfense féministe, mais les objectifs ils sont à peu près les mêmes, d'accord. Et c'est intéressant parce que le physique va vraiment servir, même si on n'est pas amené à se défendre physiquement tous les jours, c'est parce qu'on va avoir appris quelques techniques aussi physiques, à se servir de son corps comme une arme, qu'on va prendre confiance pour pouvoir aussi moins se laisser faire sur des violences plutôt verbales ou psychologiques, ou des injustices, disons, vécues au quotidien. Et donc, voilà. Après, avant les années 70, il y a eu des histoires comme les suffragettes qui avaient commencé à apprendre des techniques de jujitsu pour se défendre contre la police, se plutôt lier de toute façon au mouvement politique en général, ou aussi des femmes qui s'organisaient pendant les années noires du nazisme pour se défendre aussi contre les attaques fascistes et tout ça. Et voilà, et donc c'est aussi donc les années 70, c'est un peu là où on a commencé à théoriser, à penser, à analyser justement les violences envers les femmes comme une violence spécifique et à vouloir un peu briser les tabous qu'il y avait dessus. Donc c'est lié justement au mouvement féministe et aux études féministes. Pour développer ça, et voilà, ça fait 40 ans que ça existe. Il n'y a pas de formation à proprement dite, enfin il y en a quand même en Suisse et au Canada, mais c'est pas des diplômes reconnus, c'est pour ça que je dis que c'est pas à proprement dite. C'est quand même plus de la transmission, et beaucoup de la transmission orale aussi. Et voilà, et l'objectif, c'est aussi... faire en sorte qu'on soit moins vulnérable aussi par rapport à tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour me relancer.
Oui, tu parlais de techniques physiques, là on ne va pas pouvoir en montrer parce qu'on est à la radio, mais par exemple tu parlais aussi de techniques verbales ou psychologiques d'autodéfense. À quoi tu te réfères exactement? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple et nous expliquer une des techniques que tu enseignes dans les ateliers?
Au niveau physique, c'est déjà d'arrêter de voir le corps des hommes comme un corps puissant et invulnérable, parce qu'on est vachement éduqué à ça, à imaginer que les hommes sont quatre fois plus grands, quatre fois plus forts, invincibles. Donc on passe une partie à expliquer les points vulnérables du corps humain, que ce soit sur un homme ou une femme, dans tous les cas.
Parce oui, donc que, c'est, quand, voilà. pardon, c'est quand même assez. Il y a quand même une. Vous expliquez quand même. Il y a quand même une partie de l'atelier qui est vraiment art martial, quoi.
En fait, c'est l'idée que c'est vraiment possible pour n'importe quelle femme de se défendre, d'accord ? Le petit gabarit, la grosse, la petite, la grande, la faible, machin, pas de condition physique, qui a jamais fait de sport de sa vie, quoi que ce soit. Et donc, c'est pas la question de la force, mais bien de l'énergie, parce que ça, de l'énergie, putain, on en a à revendre pour gérer nos vies. Et donc, du coup, voilà. Et puis, on n'est pas amené dans notre éducation, dès le plus jeune âge, à savoir utiliser à bon escient notre corps et à savoir faire des gestes qui soient pertinents, disons, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de transmettre des techniques très simples et efficaces, dans le sens où, je veux dire, c'est pas du combat, hein, c'est pas un combat, parce qu'un combat c'est deux personnes qui choisissent de se battre. Là c'est quelqu'un qui t'impose de te défendre, d'accord. Et donc du coup le but c'est pas de partir sur un ring et de faire un combat, c'est de neutraliser le plus vite pour pouvoir se mettre en sécurité. Il n'y a aucune injonction à devoir se défendre physiquement, bien sûr. Enfin, l'objectif quand on est confronté à des agressions c'est de pouvoir assurer sa survie, sa sécurité, et donc faire prendre conscience aux filles, aux femmes, pardon, que déjà courir, c'est déjà beaucoup, enfin voilà, et qu'il n'y a pas obligation de se défendre physiquement, loin de là.
Si je peux juste un truc, parce que comme j'ai assisté au cours du samedi, enfin par rapport à la question que tu posais, Zab, j'avais un truc en tête, j'avais l'impression, tu me dis si je présente mal le truc, mais j'avais l'impression que ça, qu'il y avait une partie de la formation qui se concentrait sur la façon dont on investit l'espace, comment investir l'espace de façon à s'autoriser en fait, à autant que les hommes, de s'autoriser à prendre de l'espace, à prendre la parole. C'était pas forcément exactement là-dessus, mais finalement, en gros, de pas s'auto-censurer dans nos positions, nos postures. Du coup, un peu travailler des positions, en fait, ne serait-ce que la façon dont on s'assoit, la façon dont on circule, enfin... Je sais pas, moi je me souviens bien de ce truc-là, c'est vrai que ça a pas pris non plus... Enfin, c'était pas que là-dessus, mais si c'est... Comme c'est pas pour le coup sur des questions de résistance physique, mais d'en amont ce qui se passe, comment tu te positionnes, en fait, dans l'espace.
Ben, c'est cette question de... Ouais, en fait, dans notre éducation... On ne nous apprend pas facilement à savoir à faire usage de notre corps à bon escient. On nous apprend beaucoup à être dans un rôle stéréotypé de femme docile, fragile, vulnérable, gentille, douce, qui n'ont pas à se mettre en colère, qui n'ont pas à se rebiffer, qui vont faire que on est éduqué à être vachement dans le don des autres, à prendre soin des autres et à être aussi dans l'oubli de soi. Et du coup, c'est aussi ça, c'est de réaffirmer que ben, pour pouvoir se défendre, il faut aussi être en phase avec soi-même, prendre soin de soi, parce qu'avant de pouvoir se défendre vis-à-vis de l'extérieur, c'est important. Et c'est vraiment un outil de prise de conscience et de prise de confiance. Et donc du coup, voilà, dans cette histoire de conditionnement, bien, il y a au niveau de l'esprit et du psychologique, mais il y a aussi au niveau de formatage des corps, à quel point on peut être limité aussi dans nos gestes, dans nos déplacements, dans notre facilité à se mouvoir, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, voilà, on travaille sur ça, et c'est ça aussi beaucoup qui va aider à s'autoriser et à avoir confiance en nous. Voilà. Après, du coup, il y a beaucoup de discussions. Enfin, ça prend un peu la forme de groupe de parole. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est des groupes... que ça se passe en non-mixité femme. Ou en tout cas, selon un principe d'autodétermination. Et que, du coup, c'est parce qu'il y a, cette sécurité, un peu, et aussi parce qu'il y a ces échanges, cette prise de conscience qu'on n'est pas toute seule à vivre ces difficultés, ses peurs, ses situations d'agression ou de violence, et qu'on vit des choses, des violences spécifiques en tant que femme, que du coup, on prend conscience de aussi un peu dans quel système on vit, Et que ça peut aider justement à se dire, mais merde, j'ai toute légitimité là et je dois m'autoriser aussi. Parce qu'on vit aussi dans une société où on nous apprend, où on nous dit que si je me défends, ça va être pire. Hein? Si on essaie de te violer, laisse-toi faire, sinon on va te tuer, ou des trucs comme ça. Enfin, ces messages-là, ils sont pas clairement dits comme ça, mais on vit un peu dans cette idée-là. Je veux dire, combien de séries et de films sont basés sur des agressions et des violences, et des viols et compagnie. Et donc on baigne vachement de ces idées-là, qu'opposer de la résistance, ça va être pire. Ça, c'est complètement faux, il y a des études qui sont là pour le prouver. Et donc, voilà, donc du coup, c'est vraiment des techniques d'affirmation de soi et de prise de confiance. Oui. Après, les techniques verbales, pour revenir sur ce que tu disais, bon, s'il y a vraiment un objectif, c'est déjà de se valoriser entre femmes et de prendre conscience qu'on a déjà des compétences en autodéfense. Et que souvent, on ne les a pas conscientisées de cette manière-là, en fait. Enfin, moi, avant de pratiquer l'autodéfense, j'avais déjà des petites techniques et faire semblant de téléphoner dans l'espace quand je rentrais tard le soir, avoir la bombe lacrymo, prendre plutôt les grands boulevards éclairés que les petites rues, décider de m'habiller de telle manière parce que je savais que je rentrais tard ou machin, un truc. Et ça reste des techniques d'autodéfense parce que c'est comme une sorte de moins grande prise de risque, en fait. Et donc voilà, et déjà valoriser ce truc. Et après, y a... le problème, c'est quand ça devient limitant et limite liberticide, en fait, qu'on s'autorise plus à sortir à certaines heures, qu'on ne veut pas aller à telle soirée parce qu'on ne sait pas comment on va rentrer. Et que, voilà. Donc du coup, c'est gros travail d'arriver à transmettre des outils pour se sentir plus forte et moins vulnérable. Et alors après... Bon, sur le verbal, on est obligé de fait de faire face à des situations d'agression verbale, d'autant plus dans l'espace public. Combien de fois on vit des situations de relous qui se permettent de vous alpaguer dans la rue, de vous dire comment ils vous trouvent physiquement ou quoi que ce soit, voire même de vous insulter avec des insultes sexistes. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. La question du sentiment d'insécurité aussi qu'on peut vivre, hein, parce que pareil, donc, quand toujours ces questions de conditionnement. Il y a une peur qui est assez universelle et très structurante pour le sexe, pour notre catégorie de sexe, disons des femmes, c'est la peur du viol. Et on nous transmet ça dès le plus jeune âge, je veux dire, qui n'a pas eu des recommandations plus spécifiques en tant que fille qu'en tant que garçon, justement, sur attention. Dehors, il y a le loup, quoi. Et,
ouais, elle rentre pas toute seule, quoi. Voilà. Enfin, je pense pas que mes parents m'auraient dit si j'avais été un fils et pas une fille. Fais attention en rentrant à 1h du matin, rentre pas toute seule, fais-toi accompagner, évite telle rue. Enfin, il y en a peut-être, j'en sais rien, je suis pas née fils finalement, donc voilà, mais c'est vrai qu'on est déterminé dès le départ à orienter notre comportement pour éviter les situations dites à risque, alors que c'est pas le cas pour les hommes, je pense. Et puis enfin, jusqu'à certaines limites, bien sûr.
C'est aussi un des objectifs de casser un peu tout le mythe et fantasme autour de l'agression faite aux femmes, parce qu'on vit aussi beaucoup dans l'idée de l'agression tard, la nuit, rentrant par un gars psychopathe et compagnie. Ça arrive, faut pas se leurrer. Mais la réalité des chiffres, en tout cas dans notre pays, c'est que... Après, les statistiques, ça reste qu'une partie de la réalité. Mais 80% des violences envers les femmes sont le fait de personnes de l'entourage, en fait. D'où aussi toute cette complication, parce que c'est des gens qu'on connaît, qui on peut avoir normalement confiance. Et du coup, il y a une grosse partie aussi sur la question de nos émotions. De la peur, de la colère, du malaise un peu qu'on peut ressentir dans certaines situations. Et que parce que justement on nous a appris à toujours mettre de côté un peu ce que nous on peut ressentir pour être plus dans le dans les autres encore.
Consensuel.
Consensuel, je sais pas. On a tendance un peu à décrédibiliser nos propres ressentis, à pas légitimer. Et ça fait partie de ça aussi, l'autodéfense, des objectifs de se reconnecter avec ce qu'on ressent déjà, et du coup de faire confiance à nos émotions, parce que c'est des grands indicateurs de ce qu'on vit, Et voilà, et qu'on nous a vachement appris aussi à dire, de toute façon, les meufs, elles ont peur de tout, elles sont parano sur des trucs et tout. Nous-mêmes, on reproduit ça dans notre propre, voilà, propre ressenti. Et donc, du coup, c'est faire confiance à ces émotions pour savoir identifier les situations d'agression et de violence que l'on vit et pour pouvoir, du coup, mettre en place des choses pour s'en prémunir et arrêter de subir ça. Donc, c'est pas évident.
En fait, finalement, c'est une façon de neutraliser un peu la peur, enfin, de la neutraliser. Elle disparaît pas comme ça, en claquant des doigts, mais justement en identifiant des moments, enfin des moments où, quand tu dis des situations d'agression, d'harcèlement, enfin, en fait, de dire cette situation est intolérable et je vais résister ou je vais réagir, je pense que ça peut neutraliser la peur de manière générale parce que tu te sens, enfin tu t'autorises, tu te sens légitime à répondre dans ces situations là et du coup de manière générale bah tu te sens plus à même de, je sais pas, de tu te sens plus libre en fait aussi dans d'autres situations où précisément il y a pas, enfin où d'une certaine manière la peur tu la neutralises dans ces moments là en fait, tu l'identifies, enfin identifier la peur c'est aussi la neutraliser, c'est ça que je voulais dire tout simplement.
Ouais. Et enfin, le but c'est plus d'avoir, c'est pas de plus avoir peur parce que la peur elle est utile. Enfin, la peur, franchement, dans nos vies, si on n'avait pas peur, on prendrait des risques dans tous les sens pour what mille trucs, hein, pas spécialement la question des violences. Mais c'est du coup, enfin, elle nous informe d'un danger quoi. Donc, vraiment, la peur elle est utile. Hein. Mais à partir du moment où elle est paralysante et voire même elle n'est pas rationnelle, c'est là que ça devient un souci. Donc du coup, c'est identifier plutôt la peur et la différencier de ce qui est de l'ordre de l'angoisse, en fait, aussi. La peur, c'est plutôt, il y a un danger immédiat, là, j'ai repéré qu'il y avait une situation qui n'allait pas, et l'angoisse, c'est plus mon imaginaire, et juste, oui, là, je traverse un parking souterrain, et comme j'ai vu What Me Film, où il y avait des agressions comme ça dans les parkings souterrains la nuit, il y a beau pas avoir de personne, pas de bruit ou quoi que ce soit, je suis hyper en stress. Pareil, t'as la question de prendre un train de nuit en couchette et tout, comment c'est un truc qu'on va pouvoir flipper hyper facilement, en fait, se dire merde, là je partage un truc de compartiment avec plusieurs hommes. Il y a très peu de chances en vrai qu'ils s'allient pour me violer ou quoi que ce soit, mais quand même je peux être en stress facilement et tout. Et du coup, c'est ces questions de. Ouais, d'identifier vraiment ce qui est l'ordre du danger, de ce que je vois, ce que je ressens, et du coup aussi ce qui est l'ordre de ce qu'on m'a inculqué, et comment il y a plein de messages comme ça transmis par What Mille Choses, et les médias sont forts aussi pour ça. Ouais. Et voilà, et alors après sur la question de l'éducation, il y a un truc que je trouve important de dire, c'est que, qui est à la base un peu de ce questionnement, toutes les histoires qu'on nous raconte en tant que petite fille ou petit garçon, hein, même, hein, c'est souvent des histoires très sexistes, en fait, où la princesse attend sagement que son prince charmant vienne la délivrer du méchant dragon, que les jeux, les petits dessins animés et compagnie, combien il y a de super-héros très masculins, très virils, et comparés à des figures de puissance féminine, tu vois, qui sont hyper rares. Donc on a envie. On grandit pas avec des modèles positifs comme ça, et on grandit pas avec l'idée que les femmes savent se défendre et ont la capacité à se défendre.
Oui, il y a plus de support d'identification puissant en fait, même de femmes puissantes. Mm-hmm. Mm.
Et donc du coup, c'est aussi ça l'objectif de l'autodéfense féministe, c'est de se donner des images positives et aussi de se transmettre des histoires de réussite parce que. La société ne nous les donne pas, les médias encore moins. On ne parle jamais des situations d'agression où la fille a réussi à s'en sortir et qu'est-ce qu'elle a mis en place. Mais par contre, on nous fait des grands tableaux d'agresseurs, psychopathes, et qui est le truc les plus horrifiants qui se sont mis en place. Et donc, du coup, on vit vachement dans ce truc. Puis on vit dans la culpabilité aussi d'être responsable en fait, d'une agression. Ça, c'est hyper fort aussi. Il y a eu quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps, l'histoire de la joggeuse et tout, qui a été agressée et tuée. Et ben les discours qu'on entend, que ce soit dans la société, disons, civile ou dans les médias, c'est qu'est-ce qu'elle faisait aussi toute seule à cette heure-là, machin. Et la jeune fille qui a été violée parce qu'elle sortait le jeudi soir pour une soirée étudiante, et ben elle était en mini-jupe à 3h du matin et tout. Et donc on nous apprend en fait dire que l'espace public, c'est un...
Ah, c'est un rappel à l'ordre, en fait, tous ces trucs-là.
C'est ça.
Vraiment un rappel à l'ordre.
C'est un rappel à l'ordre sexué, et où, où on reproduit une société où l'espace privé est l'espace des femmes et l'espace public, celui des hommes. Et voilà, et donc du coup, ben, l'objectif, c'est de pouvoir... pouvoir un peu changer tout ça aussi, et faire en sorte que, qu'on se sente mieux. Et que... plus forte, voilà, et... et voilà, s'il y avait vraiment une définition généraliste à donner de l'autodéfense, c'est tout ce qui va rendre nos vies plus sûres. Et des fois, c'est aussi des stratégies comme ça au départ, sans trop y réfléchir, on aurait l'impression que c'est plutôt limité nos possibilités. Mais à la fois, si ça nous sert, à nous, en tant que tel, ben, c'est intéressant aussi, quoi. Cette histoire de choisir sa tenue et quoi que ce soit, ben oui. Ça reste une stratégie d'autodéfense, quoi, et à chacune d'évaluer ce qui est bon pour soi, et il n'y a pas non plus une injonction à se dire maintenant je baladerai dans n'importe quelle tenue, à n'importe quelles heures, obligatoirement, parce que c'est comme ça maintenant qu'il faut faire pour changer les choses ou quoi que ce soit. Enfin, faut pas.
Ouais, je le vois un peu comme ça aussi, ouais.
Faut pas tomber dans le travers non plus de se dire. Que. Qu'on reproduit ça, je veux dire. Faisons ce qu'il est en fonction de nous, quoi. Enfin, ça, c'est important. Et voilà, alors l'idée de l'autodéfense féministe, c'est de déjà les aider à repérer qu'elles ont déjà des outils. Et du coup, c'est de d'étendre un peu leurs outils. Et au niveau de la défense verbale, eh ben, l'ignorance, ça reste de la défense verbale. Tracer sa route et faire genre « je suis sourde et j'ai rien entendu ». Prendre à partie, crier, poser ses limites verbalement, clairement, en évitant les pièges du langage et de ce qu'on nous a bien appris à être, c'est-à-dire gentille, douce et docile. Mmh. Excuse-moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser tranquille? Et là. Mmh. Non, mais t'es gentille, mais je veux pas t'embêter, mais machin, mais le truc. Bref, c'est aussi leur permettre de voir qu'il y a des situations où c'est utile d'être, de faire passer des choses comme ça, mais il y a aussi des situations où il vaut mieux être dans l'affirmation, dans l'ordre, dans la voie qui est... autoritaire aussi, enfin voilà, c'est aussi ouvrir des comportements qui sont pas dans ce qu'on appelle ce qu'on attend spécialement d'une femme, ce qu'on voit et ce qu'on du stéréotype des femmes. C'est aussi, ça veut pas dire qu'il faut devenir dans l'affirmation totale et jamais être poli et autoritaire pour n'importe quoi. C'est pouvoir vous élargir nos capacités d'action. Ça. En fait.
Et puis, est-ce que je vais faire une petite analogie qui, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais quand tu dis on n'est pas dans le but n'est pas de donner une injonction à tel comportement et tout ça, et est-ce que aussi, enfin moi je le vois un peu comme ça de ce que j'ai vu, enfin de très brièvement, en gros, de permettre, c'est le féminisme, c'est aussi une question de réappropriation de son corps et de ses pratiques, et du coup c'est aussi un engagement qui vise à déculpabiliser aussi, qui vise à déculpabiliser les femmes sur la façon dont elles s'habillent, la façon dont elles se comportent, qui à la fois leur ouvre des possibles en termes de pratiques et qui leur dit aussi mais vos pratiques sont légitimes. Et du coup, notamment tout ce qui est autour de la récupération du stigmate salope et de se dire que être une salope, enfin se revendiquer salope par exemple, c'est aussi dire que je me réapproprie mon corps, mes pratiques, et que je vis une sexualité libre et que je l'assume. Enfin, donc voilà, je m'explique vite fait sur l'analogie que je fais avec l'autodéfense féministe. J'y voyais aussi une façon de dire notamment en ce qui concerne la circulation dans l'espace public, je suis légitime à circuler dans l'espace public, je me déculpabilise sur sur ce rappel, justement je ne veux pas répondre à ce rappel à l'ordre sexué, et je dispose de cet espace de la manière dont j'en ai envie, je m'autonomise, et du coup, enfin c'est pas d'une certaine manière, c'est pas normatif en termes de voilà la façon dont tu devrais te comporter en tant que femme, puisque précisément ça, enfin je sais pas, ça déconstruit un petit peu toutes ces tous les comportements qu'on devrait adopter dans ce type de truc. Enfin, la façon dont tu nous as parlé de ça, je trouvais que ça répondait aussi un peu à ça. C'est-à-dire, en gros, on a toutes développé des pratiques d'autodéfense féminine. Et enfin, moi, je donne des conseils, mais je dis ça s'adapte à n'importe quel, à chaque corps, à chaque femme, à chaque.
En fait, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais conseil en autodéfense. D'accord, c'est t'aurais dû faire ça ou t'aurais pas dû faire ça, tu vois, t'aurais dû être habillé comme ça ou t'aurais pas dû être à cet endroit à cette heure-là, et voilà, et c'est pour ça que... Parce que tenir ce discours-là, au final, ça revient à renvoyer la responsabilité aussi, quelque part, de l'agression sur la victime. Et donc, du coup, je veux dire, il n'y a pas une femme, il n'y a pas une manière d'être femme, il y en a plein, il y en a des milliers, malgré ce qu'on laisse nous faire croire, avec le 8 mars, c'est la journée de la femme, comme tous les médias aiment bien en parler. Et du coup, voilà, je veux dire, la prise de risque, elle existe de fait, juste en fait, parce qu'on est né femme. Et à partir de là, pour m'en prémunir, je vais mettre en place ce que je trouve qui est, pour moi, adapté. Et voilà, et à chacune de voir, c'est pareil, dans nos techniques verbales, on leur dit bien, bon, bah, c'est pas maintenant que tu vas devoir répondre. Enfin, toute situation est particulière, déjà d'une, selon le contexte où ça s'opère, selon avec qui ça s'opère. Donc les techniques, elles vont, enfin c'est ça qui est déjà souvent frustrant aussi par rapport à ce que les participants viennent chercher, c'est qu'elles cherchent des réponses claires et dire comment réagir dans telle situation. Ben ça t'appartient en fait. C'est toi qui évalue la situation, qui évalue ce que tu te sens capable de faire ou pas. Et c'est pas magique l'autodéfense, malheureusement, ça a pas ce côté-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que me défendre, c'est légitime. Pas me laisser faire, c'est légitime, et du coup j'ai plein de manières de répondre à tout ça, et que ce soit en choisissant mes horaires, enfin voilà, on va pas venir tenir le discours de maintenant que vous avez pas pris l'autodéfense, il faut que vous assumiez, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, y a pas d'injonction, enfin vraiment on gère, et si on se sent pas de faire ou telle chose, ben c'est bien sûr entendable. Et voilà, et après, moi je reste persuadée que si les hommes avaient peur de se faire défoncer la gueule s'ils agressaient une femme, on ne vivrait pas dans la société dans laquelle on vit. Et donc du coup, c'est important de développer des techniques d'autodéfense et développer ses savoir-faire dans la matière, parce que c'est aussi un bon moyen de faire changer les choses. Et la question du corps, elle est centrale dans l'autodéfense, parce que du coup, ça va être vraiment par cet outil-là, parce que les discours, c'est bien. Enfin, l'analyse féministe, elle apporte plein de choses, mais elle parle pas à tout le monde non plus, et pas à toutes les femmes. Et donc, du coup, par ces ateliers d'autodéfense féministe, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail de prise de conscience, que en travaillant sur l'aspect corporel, et ben voilà, je prends conscience en fait de la société dans laquelle on vit, de comment j'ai été éduquée et comme j'ai envie aussi de faire changer les choses et de plus être victime d'un système de domination. Et voilà.
Bon ben merci beaucoup d'avoir participé. Je pense, Suzanne, que t'as plus de questions non plus. Rappelle peut-être les contacts de l'association, même si elle est basée à Toulouse.
Alors, je peux en profiter pour parler des autres associations qui sont en France.
Ou s'il y en a d'autres, oui, voilà. Effectivement.
Donc, Faire Face, c'est à Toulouse. Et sinon, il y a Autodéfense et Autonomie à Lyon. Il y a Potentiel et Brin d'Acier à Dijon. Il y a une association à Grenoble aussi qui utilise la méthode Riposte. Il y a la Trousse à Outils à Nantes. Et puis après, près de Lille, il y a Garance en Belgique, à Bruxelles aussi à Tournai. En Suisse, il y a l'association Viol Secours, et au Québec, il y a le Centre des préventions des agressions de Montréal.
Ça fait un peu loin, mais...
Ouais, ça fait un peu loin, mais voilà, c'est des associations... Voilà, et après, il faut savoir que il y a Daniel Prince Club aussi à Paris. Et puis, il faut savoir que là, ce sont des associations, mais il y a aussi, dans le milieu féministe en général, des groupes autogérés qui s'organisent et qui se transmettent des outils comme ça, et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va se développer et que plus de femmes pourront en bénéficier parce que c'est utile et que ça fait du bien. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup. On vous met un petit morceau de musique et on revient juste après pour l'agenda. We'll be right back.
Voilà, donc c'était The Cure, Boys Don't Cry. Nous passons à l'agenda de ce mois-ci, le mois de mai, l'agenda donc féministe lillois. Pour ce mois de mai, plusieurs événements, on va vous dire un peu les plus importants ou ceux qui nous ont semblé un peu plus pertinents. Le mercredi 15 mai, à chez Violette, vous attendent pour un atelier tricot couture. Et elle vous invite à participer à un de leurs projets, donc à partir de 18h, qui s'appelle « Des sacs et des chaussures pour la Guinée-Conakry ». Le 18 mai, trois jours plus tard, à l'occasion du FIV Festival, elles ouvriront un stand de friperie, parce qu'elles ont une friperie associative, donc elles vendront quelques vêtements. Et elles seront surtout là pour répondre avec vos questions, avec le collectif L'Échappée, qui s'occupe des violences contre les femmes. Et d'autres événements ce mois-ci, on vous invite à aller sur l'agenda de la métropole. N'oubliez pas qu'on le met à jour régulièrement. Et sinon, vous pouvez retrouver aussi un peu plus d'informations sur notre page Facebook. Donc vous tapez Vendrage sur Facebook et vous allez la trouver. Et on vous invite à aller lire nos articles. On a un peu abandonné le webzine ces derniers temps, mais vous pouvez toujours aller lire les articles qu'on a déjà mis en ligne. Ou aller vérifier qu'on a pas mis de nouveau. L'adresse du webzine, c'est...
genrage.wordpress.com.
Voilà. Suzanne, répète peut-être.
Genrage, G-E-N-R-A-G-E, .wordpress.com.
Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à bientôt. On se dit à dans 2 semaines. Nous serons le lundi. Bonne question. Nous sommes le 29. Eh ben, vous comptez. Allez, à bientôt.